Zoom Écologie, tous les jeudis soirs de 20h30 à 21h30 sur Fréquence Paris Pluriel.
Bonsoir, vous êtes sur RFPP 106.3, c'est Zoom Écologie et on est ensemble jusqu'à 21h30. Ce soir, c'est Lise et Sarah et on va vous présenter une émission sur les mobilisations d'agriculteurs et d'agricultrices à propos de questions de santé environnementale liées aux pesticides.
Pour discuter avec nous, deux invités, Jean-Noël Jouzel qui est chercheur au CSO à Sciences Po et Giovanni Prete qui est maître de conférence à Paris 13. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous donner des chiffres ou au moins un aperçu sur la consommation de pesticides en France et la façon dont ils sont régulés et mis sur le marché?
Alors la France est un des principaux consommateurs mondiaux de pesticides de longue date. L'agriculture française a beaucoup reposé sur la chimie afin de sécuriser les récoltes et dans une perspective de productivisme agraire qui a été encouragée par l'administration centrale, par le ministère de l'Agriculture, qui, d'un autre côté, a mis en place d'assez longue date un dispositif qui vise à éviter que les pesticides qui sont sur le marché aient des effets néfastes pour l'environnement, pour la santé des consommateurs et aussi pour la santé des travailleurs. Donc ça fait depuis bientôt 70 ans, depuis 1943, qu'existe une procédure d'homologation qui équivaut à une procédure d'autorisation de mise sur le marché, comme dans le domaine du médicament, lors de laquelle les pesticides que les industriels veulent mettre sur le marché sont soumis à une batterie de tests toxicologiques qui visent à rendre visibles leurs effets sur la santé et l'environnement et à déterminer des doses en dessous desquelles l'exposition des travailleurs ou des consommateurs aux pesticides apparaît acceptable, c'est-à-dire apparaît ne pas avoir d'effets trop dangereux pour la santé.
D'accord. Et donc cet organe, il s'appelle ?
Alors il a changé de nom. Initialement, il s'appelait la Commission des toxiques, de son petit nom, la Comtox. Et il était hébergé par le ministère de l'Agriculture. Depuis 2005, l'homologation, elle a été assurée d'abord par une division de l'AFSA, l'Agence française de la sécurité alimentaire, et puis maintenant elle est assurée par une autre division d'une autre agence, l'Agence nationale de santé environnementale, l'Agence nationale, de sécurité sanitaire. Et donc ces trois commissions successives ont évalué la toxicité des pesticides.
D'accord. Et juste une dernière question peut-être. Comment ont été composées ces commissions? Est-ce qu'il y avait des professionnels de la santé, des professionnels de l'agriculture, mouvements sociaux?
Non, pas de mouvements sociaux. Des professionnels, effectivement. Donc elle a été composée essentiellement d'experts en toxicologie. Alors les modalités de nomination ont beaucoup changé, elles sont devenues de plus en plus strictes, les procédures se sont consolidées avec le temps, mais néanmoins c'est d'abord à des experts en toxicologie qu'on demande de se prononcer sur la possibilité d'autoriser ou pas des pesticides.
D'accord.
Et dans ce contexte-là, et vu l'importance, comme tu l'as dit, industrielle de l'usage des pesticides, comment les risques pour la santé des agriculteurs et des agricultrices ont été mis en évidence? Et est-ce qu'il y a une difficulté spécifique pour prouver, pour démontrer la causalité entre des maladies liées aux pesticides et leur usage?
Alors, il y a une difficulté, effectivement, d'établissement du lien causal entre exposition aux pesticides et santé humaine, qui est liée à deux faits principaux qui sont de l'ordre de la nature, qui sont inévitables, qui sont d'abord que les maladies qui sont éventuellement induites par l'exposition aux pesticides, elles sont très rarement spécifiques, c'est-à-dire qu'elles peuvent avoir d'autres causes, d'autres étiologies, elles peuvent être liées à la malchance, elles peuvent être liées à l'hérédité, elles peuvent être liées aux pratiques de vie. Il y a des cancers qui peuvent être liés à des pesticides, comme ils peuvent être liés au fait de fumer, par exemple. Donc c'est la première difficulté. La deuxième, c'est l'existence de temps de latence qui peuvent être importants, qui peuvent se chiffrer en années, voire en décennies, entre le moment de l'exposition et le moment où se déclenche le symptôme d'une maladie qui peut être éventuellement induite par les pesticides.
Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de ces maladies récurrentes? Enfin, c'est quoi les plus déclarées? C'est quoi?
Alors, il y a très peu de maladies qui sont déclarées, donc c'est de l'ordre de quelques dizaines par an. Donc ce n'est pas vraiment sur la base des déclarations de maladie qu'on peut faire des statistiques. Par contre, depuis une vingtaine d'années, il y a de plus en plus d'études épidémiologiques, donc d'études qui regardent des hommes qui sont exposés, des hommes et des femmes qui sont exposés aux pesticides et qui essayent de rendre visibles les effets de ces pesticides sur leur santé, qui ont mis en évidence une surincidence de certaines pathologies en lien avec l'usage des pesticides. Ces pathologies, c'est pour l'essentiel, pour les plus lourdes d'entre elles, des cancers, plutôt des cancers du sang, des cancers de la vessie également, enfin un certain nombre de cancers, et également des maladies neurodégénératives. Le lien le plus connu entre pesticides et maladies neurodégénératives concerne Parkinson. Une précision importante à ce sujet, c'est que ces études épidémiologiques, pour la plupart, elles sont capables d'établir des liens entre l'exposition aux pesticides dans leur ensemble et la santé humaine. Elles sont très rarement capables de descendre à un niveau de finesse leur permettant de repérer des associations avec éventuellement des familles de pesticides, et encore moins avec des pesticides précis. Parce que ce système d'homologation, qui fonctionne depuis 70 ans, en France, il a permis d'homologuer des centaines de substances, pas loin d'un petit millier de substances, dont beaucoup ont été interdites, celles pour lesquelles en particulier on a vu les effets les plus nocifs. Mais néanmoins, 900 produits avec des expositions très diverses en fonction des cultures, en fonction des pratiques individuelles et collectives, ça fait énormément de situations d'exposition différentes. Donc pour les épidémiologistes, c'est très compliqué d'identifier des liens causaux précis entre maladies humaines et exposition à des familles de pesticides ou à des pesticides particuliers.
Et justement, pour revenir sur cette idée d'exposition, en fait, certaines maladies se déclarent quand on est exposé de façon chronique ou de façon aiguë. C'est ça, une différence
importante. C'est une différence très importante. Il y a effectivement deux grands types de pathologies qui sont induites par les pesticides, pour simplifier. Il y a les maladies qui sont liées à des expositions aiguës, c'est-à-dire à des expositions à assez haute dose qui surviennent typiquement en cas d'accident lors des traitements. Voilà, je veux réparer mon pulvérisateur qui est bouché au moment où j'effectue le traitement. En effectuant cette réparation, je peux m'intoxiquer assez massivement aux pesticides, en respirer beaucoup, en renverser sur ma peau. Dans ces cas-là, les intoxications ont souvent des effets qu'on appelle aigus, par exemple des maux de tête, des troubles digestifs, des paralysies, qui sont souvent temporaires et réversibles. L'autre catégorie de maladies, elle est plutôt liée à des expositions chroniques, répétées, et ce sont les maladies chroniques. Donc ces maladies neurodégénératives, les cancers, ils sont plutôt associés à des expositions d'assez long terme aux pesticides, qui sont d'autant plus difficiles à caractériser. Elles sont sur le long terme. Donc pour que les épidémiologistes parviennent à caractériser ces expositions, il faut souvent qu'ils fassent appel à la mémoire des agriculteurs, à leur carnet de commandes, à toute une série de traces du passé qui sont très difficiles à rassembler pour objectiver des expositions telles qu'elles ont eu lieu dans un passé parfois lointain.
Et du coup, dans l'homologation, ce que tu décrivais au début, ce qui compte, c'est plutôt l'exposition aiguë, enfin ce qui était pris en compte par les toxicologues.
Oui, alors c'est pas forcément qu'une volonté politique de pas prendre en compte les maladies chroniques, mais c'est aussi lié au fait que les instruments qui sont utilisés pour produire des savoirs sur les pesticides, pour rendre visibles leurs effets, ce sont des tests toxicologiques sur des animaux de laboratoire. Ces tests toxicologiques, ils sont contraints matériellement d'opérer à des doses relativement hautes. Mmh. Parce que plus on veut observer les effets d'exposition à de faibles doses de pesticides, plus il faut augmenter les échantillons d'animaux qui sont exposés. En pratique, les toxicologues, ils sont contraints d'évaluer les effets d'exposition à de faibles doses sur la base d'extrapolation des résultats qu'ils obtiennent à des doses assez hautes d'exposition.
Et si on pense à d'autres types de questions sanitaires comme l'amiante ou comme le nucléaire, est-ce qu'il y a des comparaisons possibles sur cette question de la causalité, de comment on arrive à prouver un certain effet et d'accuser une certaine technologie ou un certain toxique là-dessus?
Alors, sur le nucléaire, je ne pourrais pas tellement répondre. Sur l'amiante, beaucoup plus facilement. L'amiante, c'est très particulier. C'est un cas qui est très souvent cité comme un précédent des affaires de santé environnementale et de santé au travail en France. C'est pas faux, hein, parce que c'est un cas c'est une histoire politique qui a changé beaucoup de choses dans la manière dont les maladies professionnelles sont prévenues, dans la manière dont se structurent les mobilisations qui cherchent à dénoncer ces maladies professionnelles. Mais c'est aussi un cas qui est très particulier parce que l'exposition à l'amiante, elle a cette particularité de justement induire un effet spécifique, qui est le mésothéliome, le cancer de la plèvre, qui est très clairement associé, pas systématiquement, mais très clairement associé à l'exposition à l'amiante. Ce qui fait que c'est un toxique professionnel dont les effets sont quand même beaucoup plus faciles à relier causalement à la cause.
Et donc dans le cas des pesticides, on peut pas, c'est du fait des effets cocktails entre différents pesticides qu'on n'arrive pas à identifier. Il n'y a pas un pesticide qui produit une maladie, c'est ça?
C'est d'abord, il y a ça, hein, mais avant même cette question qui est hyper complexe, hein, qui est une question sur laquelle les toxicologues se cassent les dents, c'est-à-dire que les toxicologues procèdent en isolant les substances, et en faisant varier la dose pour en objectiver les effets sur des échantillons d'animaux. Donc ça les rend bien en peine de caractériser les effets de mélange de substances, d'association de substances. Or, dans les faits, les travailleurs agricoles sont souvent exposés à plusieurs pesticides et pas un seul. En général, les bouillies sont composées de plusieurs pesticides sur la base des recommandations agronomiques. Mais avant même d'entrer dans cette difficulté-là, le simple fait qu'il y ait eu 900 substances homologuées, plus de 900 substances homologuées en France, rend extrêmement difficile l'attribution causale aux pesticides des pathologies dont on peut éventuellement suspecter qu'elles en sont la conséquence chez les agriculteurs.
D'accord, parce que je pensais à un cas précis qui était celui du chlordécone, au sujet duquel en fait certaines associations avaient pu déclarer une épidémie de cancer de la prostate liée à un pesticide spécifique. C'est pour ça que je posais la question de l'association entre...
Ça peut arriver, il y a eu d'autres cas, l'arsenite de soude par exemple, qui était très utilisé en viticulture. C'est un cas où on a pu établir des associations causales assez claires entre certaines pathologies et un pesticide particulier. Mais ça reste vraiment une exception au regard de la grande masse des pesticides pour lesquels c'est très très difficile d'arriver à construire de telles chaînes de causalité entre environnement et santé.
D'accord. Et pour en venir donc à ce qui nous intéresse plus directement ce soir, c'est-à-dire la mobilisation des victimes des pesticides, est-ce qu'on peut revenir sur la préhistoire de ce mouvement en voyant quels groupes ont commencé à contester l'usage des pesticides et ses conséquences, donc à la fois des groupes écologistes mais aussi des acteurs qui s'étaient mobilisés sur d'autres dossiers comme l'amiante dont on a déjà parlé?
Oui, alors je vais prendre la parole. Par rapport à ça, il faut voir donc des oppositions à la mise sur le marché des pesticides. Il y en a depuis très longtemps, tout le XXe siècle. Hein, si vous interrogez un historien, il pourrait vous faire l'histoire de ces oppositions. Moi-même, dans mes travaux, j'avais vu des controverses dans les années 60, impliquant par exemple des associations de chasse, des associations de protection de l'environnement autour de dépannage aérien. Donc, ce qui est assez nouveau, par contre, c'est l'émergence donc récente de mouvements organisés visant à dénoncer l'effet des pesticides sur la santé des travailleurs agricoles. Puisque jusqu'à récemment, s'il pouvait y avoir des oppositions, c'était des oppositions individuelles liées à des démarches entreprises par des individus engagés dans des procédures de reconnaissance en maladie professionnelle, par exemple, mais il n'y avait pas de mouvement structuré. Ce qu'on voit émerger dans l'espace public, au niveau des médias, au niveau aussi du degré d'attention qu'ils peuvent avoir vis-à-vis des institutions qui sont en charge de la régulation des pesticides, c'est une association, alors on va lui donner un nom, qui s'appelle Phytovictime aujourd'hui, qui a été créée en 2011. Voilà, je confonds toujours, parce qu'en 2010, c'est la première réunion en fait, qui va donner naissance à l'association ensuite. Donc c'est une association qui est très récente, prend la parole et essaye de porter finalement un claim au nom des victimes professionnelles des pesticides. Cette association, elle a émergé en 2011-2010 suite à différentes évolutions. En fait, hein. Il y a plusieurs facteurs qui ont fait que tout d'un coup, cette association a pu émerger, a eu un succès médiatique et politique que l'on connaît aujourd'hui et qu'on est en train, nous, d'étudier. Première chose, peut-être, c'est la multiplication des demandes de reconnaissance en maladie professionnelle individuelle. Deuxième chose, Jean-Noël l'a évoqué, c'est la multiplication des enquêtes épidémiologiques hein, qui permet de rendre plus robustes les dénonciations des effets des pesticides sur la santé des travailleurs, sachant qu'en France, les enquêtes épidémiologiques, elles sont assez récentes. C'est depuis les années 2000 qu'il y a des enquêtes épidémiologiques qui ont été mises en place. Une grande enquête en cours qui s'appelle Agricant, dont on va certainement reparler ici. Les premières enquêtes, elles datent de 84, je crois. En tout cas, c'est très, très récent. Et c'est ce qui permet aujourd'hui à des gens qui voudraient porter un discours politique sur cette thématique d'asseoir leurs propos un peu sur des arguments scientifiques. Alors l'association Phytovictimes, elle émerge en 2010 aussi parce que il y a à ce moment-là, on va dire une rencontre entre différents acteurs qui étaient intéressés par la thématique des effets des toxiques d'une manière générale sur la santé au travail, sur la santé environnementale. Donc des associations environnementales, Génération Future, et derrière Génération Future, il y a tout un réseau européen d'associations qui s'opposent aux pesticides, à la fois pour ses conséquences environnementales et pour les conséquences sur la santé. Et puis l'alliance, en fait, on va dire, entre cette association environnementale et des acteurs qui étaient très engagés dans le dossier de l'amiante. Plusieurs personnes qu'on peut citer, Henri Pesera, qui est un toxicologue, qui est décédé aujourd'hui, mais qui a joué un rôle très très important dans la dénonciation du scandale de l'amiante, qui est quelqu'un qui va permettre en fait de faire de l'épidémiologie populaire, qui va dénoncer, qui va produire des savoirs et qui va avoir une influence aussi pour mettre en lien un certain nombre de personnes, créer des réseaux, et puis des avocats, un cabinet d'avocats, cabinet Tessonnière par exemple, qui va prendre position pour accompagner des victimes des pesticides dans leur démarche individuelle, mais aussi pour essayer d'agréger ces victimes et faire en sorte qu'elles se rencontrent et qu'elles puissent porter un discours collectif. Alors ça ne veut pas du tout dire que l'association Phytovictimes aujourd'hui est on va dire complètement portée par ces associations ou ces acteurs qui l'ont aidé, qui ont aidé à son émergence au départ, mais ça veut dire qu'il y a vraiment une configuration qui se passe à la fin des années 2000 qui va permettre cette émergence, quoi.
Tu as mentionné le terme d'épidémiologie populaire. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Qu'est-ce que ça veut dire par rapport aux autres savoirs ?
Alors, ce qu'on appelle épidémiologie populaire, c'est le fait que des groupes d'acteurs, des gens qui s'estiment malades liés à des expositions de toxiques environnementaux, soit sur leur lieu de travail, soit dans leur habitation, se mettent ensemble, souvent derrière des toxicologues ou des épidémiologistes qui vont les aider, pour produire des savoirs qui ne seraient pas produits par les institutions en place, agréger des cas et essayer de mettre en évidence des relations, justement, qu'on a évoquées, de causalité entre substances toxiques et maladies. Alors, l'épidémiologie populaire, c'est un terme qui a été inventé par un... Alors, qu'est-ce qu'il est ? Il est médecin en santé publique, Phil Brown, aux États-Unis, je ne sais pas quelle est son étiquette exactement, mais qui vient des États-Unis en fait, et qui permet de décrire le travail de mise en évidence de relations de causalité qui a été fait par plusieurs groupes associatifs, plusieurs organisations issues de la société civile en fait, autour de grands dossiers. Alors on peut citer les dossiers des malades du bâtiment malsain, je ne sais pas comment, enfin c'est la traduction, comment c'est en anglais.
Sick building syndrome
ou épidémiologie populaire autour des malades étudiés par Yannick Barthes, des essais nucléaires, des personnes qui seraient malades suite à avoir été exposées à des radiations lors d'essais nucléaires. Voilà. Donc c'est un terme qui permet de décrire justement ce travail scientifique, qui est un travail scientifique profane, qui n'est pas forcément fait par des spécialistes, mais qui permet en fait de construire les premières bases de preuves pour ensuite tenir un discours politique, pour ensuite interpeller les pouvoirs publics, essayer de faire en sorte que des savoirs alternatifs puissent exister par rapport au savoir toxicologique ou au savoir épidémiologique en place qui demande en fait des moyens considérables, quoi.
Mais du coup, est-ce que les médecins généralistes ont joué un rôle, par exemple, dans les procédures d'épidémiologie populaire ? Parce que tu parles des ouvriers agricoles, des agriculteurs, qui donc en fait observent la prévalence de certaines maladies, mais ensuite il faut qu'elles aillent voir un toxicologue ou quelqu'un qui fait de l'épidémiologie. Alors, enfin, est-ce que c'est pas plus facile d'aller voir son médecin généraliste, de lui en parler ? Enfin, est-ce que les médecins ont joué un rôle dans ces mobilisations ou pas du tout ?
Alors, ou est-ce qu'il faut... par rapport aux victimes des pesticides en France,
est-ce que les victimes sont...
Alors, nous, ce qu'on observe, c'est que justement le travail de mobilisation qui est fait autour de la question de l'exposition professionnelle aux pesticides, pour l'instant, reste faiblement élaboré en termes d'épidémiologie populaire. C'est-à-dire que Phytovictimes, par exemple, mais c'est une toute petite association très récente, hein, je veux dire, fait peu, en tout cas, ou peut formaliser un travail de recension qui lui permettrait de mettre en évidence un lien entre, je ne sais pas, un nombre important de cas liés à une maladie et l'exposition à telle ou telle famille de pesticides. Et une des raisons notamment pour laquelle ce travail n'a pas été fait, c'est qu'effectivement les personnes qui tombent malades, les premiers interlocuteurs qu'elles vont avoir, c'est des médecins généralistes, c'est leur médecin traitant, ou c'est des médecins de la mutualité sociale agricole, hein, qui est l'organisme de sécurité sociale du monde agricole. Et le premier enjeu pour les agriculteurs qui sont malades, c'est pas du tout d'essayer de construire, on va dire, une preuve qui serait une preuve sur une exposition entre une famille de pesticides et la réalité d'une pathologie dans un territoire ou en France plus généralement, mais bien de comprendre ce qui se passe pour eux-mêmes. Donc c'est bien deux démarches complètement différentes. Alors si la question aussi c'est de savoir quel rôle auraient joué des médecins dans la construction de l'association Phytovictimes, on va dire que pour l'instant on a observé qu'il y avait quelques médecins du travail qui pouvaient jouer un rôle de conseil plutôt pour savoir comment discuter, comment entrer en relation, comment gérer un dossier, enfin porter son dossier vis-à-vis des organismes de sécurité sociale. Mais les médecins en eux-mêmes restent assez peu liés au travail associatif qui est fait par Phytovictimes, quoi.
D'accord. Parce que je pensais que c'est vrai que dans la campagne, ils auraient pu avoir l'occasion d'observer un certain nombre de cas dans des régions viticoles, par exemple, et de constituer un registre avoir ce genre de pratique d'épidémiologie au niveau des médecins, quoi.
En fait, rien n'interdit d'y penser, effectivement. Manifestement, ça
n'existe pas.
C'est pas que ça n'existe pas. On ne connaît pas, nous, de cas de médecins qui auraient essayé de faire un registre, qui auraient essayé à sa manière de faire de l'épidémiologie populaire. À partir de cas qu'il aurait vu dans son service, par exemple, dans des services spécialisés en maladie du sang ou en maladie neurodégénérative. Par contre, on voit à gauche, à droite, des figures de médecins un peu engagés, qui n'ont pas forcément l'impression de faire de la politique, mais qui néanmoins notent des choses qui leur paraissent curieuses, qui leur semblent avoir un lien avec les expositions professionnelles aux pesticides, et qui peuvent éventuellement encourager des gens qui sont victimes de ces maladies, non seulement à essayer de se faire reconnaître, mais éventuellement les aider aussi à aller un peu plus loin, voire participer, mais assez indirectement, à la construction de la cause. Mais ce qu'on observe aussi, c'est une hétérogénéité manifestement assez forte des pratiques médicales par rapport à cet enjeu, entre ceux qui ne voient rien, ceux qui voient quelque chose mais ne font rien, ceux qui voient quelque chose mais font un peu, sans forcément très bien savoir quoi faire, hein, parce que c'est pas évident pour un médecin qui constate un nombre qui lui semble anormal de cas de certaines maladies chez des agriculteurs, de transformer cette intuition qui est très difficile à objectiver, à démontrer objectivement, en quelque chose d'autre qui pourrait éventuellement aider l'association à se structurer et à porter sa cause.
Giovanni, tu as évoqué tout à l'heure la mutualité sociale agricole. Est-ce que c'est un levier important dans cette affaire pour la question des victimes ? Ou comment ça marche ?
Alors, la mutualité sociale agricole, donc c'est l'organisme de sécurité sociale du monde agricole. Hein, donc c'est l'organisme auquel s'adressent les personnes qui tombent malades, qui pensent que leur maladie est liée à une exposition aux pesticides et qui cherchent à obtenir de l'aide, ou en tout cas une reconnaissance en maladie professionnelle, ou à obtenir de l'aide pour pouvoir continuer leur activité. Si la maladie les empêche de poursuivre leur activité. Alors effectivement, c'est une organisation qui est très importante dans nos histoires, puisque c'est en fait le premier contact avec l'institution que vont avoir les victimes des pesticides. Hein. Ce qu'on observe, nous, c'est que les personnes qui nous parlent de leur relation avec la mutualité sociale agricole ou les gens qu'on a rencontrés de la mutualité sociale agricole nous décrivent une organisation qui va fonctionner de façon très très différente selon les territoires. Hein. C'est très décentralisé. Donc avant, c'était par département. Maintenant, ils ont réuni plusieurs départements. Donc il y a des centres territorialisés, on va dire. Et au sein de ces centres territorialisés, il y a donc des services de sécurité et de santé au travail. Il y a des médecins du travail, il y a des médecins conseils. Ces trois types d'acteurs peuvent jouer un rôle en termes d'information et en termes de soutien, de constitution des dossiers. Mais ils peuvent aussi jouer un rôle, on va dire, négatif vis-à-vis de la reconnaissance. C'est-à-dire ils peuvent décourager aussi des agriculteurs à faire les démarches pour se faire reconnaître en maladie professionnelle. soit parce que ils ont l'impression que le lien n'est pas à faire, soit parce que ils estiment que finalement c'est des procédures qui sont des procédures très longues, que l'agriculteur en question a peu de chances de voir un succès au final, et donc ils pensent que c'est mieux pour l'agriculteur de se recentrer sur autre chose, quoi. Mais en tout cas, la mutualité sociale agricole joue un rôle très, très important en termes de guichet, premier guichet, on va dire, pour donner sens à sa maladie, quoi.
Et puis en termes de labellisation des victimes, en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est quand même important pour la suite de l'histoire éventuelle, par exemple pour d'éventuelles suites judiciaires, éventuellement contre des fabricants de pesticides, ça reste quand même une chose importante d'avoir une reconnaissance officielle par la mutualité sociale agricole de son statut de victime des pesticides.
Ok, et peut-être une dernière question avant la coupure. Est-ce que cette mutualité sociale agricole offre des systèmes de compensation ? Enfin, comment on passe d'un guichet auquel on s'adresse à un mouvement de victimes ? Enfin, c'est bien qu'il y a une défaillance dans l'administration quelque part pour que les gens à un moment s'organisent autrement.
Pas nécessairement, dans le sens où, encore une fois, c'est avoir une reconnaissance comme victime par la mutualité sociale agricole, c'est aussi une grande aide pour les victimes, y compris pour se mobiliser par la suite. Ne serait-ce que parce que les rentes obtenues par la voie de la reconnaissance officielle en maladie professionnelle ne sont pas très élevées, donc ça résout en rien les problèmes financiers éventuels des gens qui sont victimes de maladies professionnelles. Mais par contre, symboliquement, ça joue un rôle important.
Oui, et puis par rapport à ça, quand on interroge les gens qui font partie de l'association Phyto-Victimes, il va y avoir un double discours, c'est-à-dire que... Enfin, double discours, ça ne veut pas dire que c'est contradictoire, hein, forcément, mais il peut y avoir, au niveau individuel, pour chacune des personnes qui participent à cette association, qui participent à cette action collective, en fonction de sa propre expérience, une dénonciation de la mutualité sociale agricole qui en fait est en première ligne. Donc on va dénoncer la mutualité sociale agricole parce qu'elle ne fait pas son travail d'accompagnement, hein. Mais ça n'empêche pas qu'après, à l'intérieur de la vie même de l'association, l'association peut être aussi conçue comme un espace d'échange pour mieux interagir avec la mutualité sociale agricole. On va se donner des trucs... des informations sur qu'est-ce qui constitue un dossier robuste, un dossier recevable, est-ce qu'il vaut mieux passer par tel service ou par tel service. Enfin, on va dire que l'association, c'est un espace de prise de parole politique et de dénonciation et de revendication, mais c'est aussi un espace d'échange, que ce soit sur la maladie ou sur la façon dont on peut au mieux être en relation avec les institutions qui sont censées nous reconnaître, quoi.
Et puis, dernière chose, par rapport à la MSA, elle est aussi très dépendante dans son action de l'état officiel de la reconnaissance des maladies professionnelles en général, qui ne dépend pas que d'elle, hein, mais qui dépend aussi du dialogue social. En France, c'est beaucoup à la concertation entre les représentants des travailleurs, les représentants des employeurs qui ont été confiés les grands choix en matière de reconnaissance des maladies professionnelles. Ça veut dire très concrètement que les maladies professionnelles constituent à la fois une catégorie médicale et en même temps une catégorie politique, qui est le fruit de négociations entre des acteurs. Sous l'égide de l'administration centrale. Et dans le cas des maladies agricoles, ces négociations, elles ont lieu entre ministère de l'Agriculture, représentants des exploitants, qui sont aussi bien souvent éventuellement des victimes, hein, donc la FNSEA, et représentants des travailleurs, donc les syndicats avec présomption de représentativité en France, donc les syndicats qu'on connaît, hein, CGT, CFDT, FO, etc., qui déterminent quelle maladie va être reconnue ou pas et qui donc orientent fortement en aval l'action de la MSA en matière de reconnaissance. C'est-à-dire qu'elle n'a pas complètement les mains libres, la MSA, pour dire si oui ou non tel agriculteur est bien victime d'un pesticide.
Ok, merci beaucoup. On va faire une petite pause musicale et on se retrouve dans... 3 minutes juste après les Doors. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. Chased our pleasures here, dug our treasures there. But can you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side. Bonsoir, vous êtes toujours sur Zoom Echo pour la deuxième partie de notre émission sur les pesticides et les phytovictimes. Jean-Noël, Giovanni, est-ce que vous pouvez nous dire comment, dans ce contexte qu'on a développé en première partie, quels sont... vous nous avez raconté comment émerge un collectif de victimes, mais ces gens-là qui se retrouvent ensemble, comment ils militent? Quelles sont leurs ressources, quels sont leurs leviers pour faire exister politiquement leur cause, comment ça se passe?
Eh bien, bon, donc l'association, comme l'a dit Giovanni, elle est jeune. Ça veut dire qu'elle n'a pas forcément stabilisé un répertoire d'action. Voilà. Ce qui est très intéressant à voir pour nous, c'est que cette association, elle est quand même portée en son cœur par des gens qui sont plutôt des exploitants agricoles, qui sont pas a priori des gens qui étaient prédisposés sociologiquement à se retrouver à faire des manifestations de rue. C'est plutôt des gens de centre droit, issus d'une France assez traditionnelle. Enfin voilà, hein, comme ils le disent eux-mêmes. Hein. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que ces gens-là se mettent à découvrir des formes de militantisme qu'ils n'auraient pas imaginé pratiquer. Par exemple. Une des dernières actions en date de Phytovictimes, c'est une manifestation publique lors du Salon de l'Agriculture, devant le stand de l'UIPP, l'UIPP qui est l'Union des producteurs de pesticides. C'est une manifestation qui a visé, le jour de la visite de François Fillon au Salon de l'Agriculture, qui a visé à faire parler de l'association, à la rendre visible, et voilà, pour dire simplement, à foutre un peu le dawa au Salon de l'Agriculture. A priori, c'était pas du tout dans le code génétique ou sociologique des membres fondateurs de l'association, qui donc se retrouvent à pratiquer un certain militantisme qu'ils n'auraient pas du tout, je pense, il y a quelques années de ça, pensé pratiquer.
Oui, et d'ailleurs, l'orientation de l'association, elle est aujourd'hui encore incertaine et en débat. C'est-à-dire que nous, on essaye de suivre un petit peu le travail associatif et dire aujourd'hui comment va évoluer cette association, c'est-à-dire quel potentiel contestataire elle va garder, quelle relation avec les institutions elle va développer. C'est assez compliqué parce que, comme l'a dit Jean-Noël, donc il y a des gens de centre-droit. En même temps, c'est une association qui est toujours en lien avec des militants qui sont plutôt des militants écolos, qui sont un peu plus radicaux, qui sont portés sur des formes de revendications un petit peu plus dures. Les individus qui composent l'association évoluent eux-mêmes. Si on prend le parcours du fondateur de l'association qui s'appelle Paul François, c'est intéressant de regarder son parcours. Hein. C'est-à-dire que lui, progressivement, il va peut-être regarder un peu différemment les possibilités d'orienter l'agriculture vers des modèles, je dirais pas moins utilisateurs de pesticides, parce que ça, il était déjà engagé dedans, mais plus l'agriculture biologique, enfin des choses un petit peu plus radicales, des changements d'orientation. Après, sur le fonctionnement même de l'association au quotidien, hein, puisqu'il y avait ça dans ta question aussi, donc c'est une association qui est jeune, c'est une association aussi qui a la particularité et la difficulté d'être une association éclatée géographiquement. Hein, donc en fait, elle est portée par... ce président, Paul François, il y a un chargé de mission, il y a des agriculteurs qui sont répartis sur le territoire national, qui sont en général des gens plutôt pas en très bonne santé, hein, et donc qui essayent de se réunir, qui essayent de se coordonner, donc ça se fait surtout par des réunions téléphoniques. Du coup, le potentiel d'action sur le terrain, il est assez limité. Un des enjeux pour eux aujourd'hui, c'est d'avoir justement une couverture au niveau national pour pouvoir peut-être commencer ce travail d'épidémiologie populaire qu'on a évoqué. Hein. C'est-à-dire que plus on couvre un territoire, plus on crée aussi des zones de collecte, d'agrégation des cas dont on peut entendre parler. On ne sait pas exactement combien il y a de morts, mais en gros, le nombre de personnes qui ont été contactées tourne autour de une ou deux centaines, 300 personnes qui constituent en fait le vivier de l'association. Et il y a le noyau dur qui est une quinzaine de personnes qui sont des gens qui ont été reconnus ou sont en train d'être reconnus en tant que malades professionnels et puis qui cherchent à aller un petit peu plus loin, quoi. Voilà, qui cherchent aussi à convaincre d'autres agriculteurs qu'il est nécessaire de porter le problème publiquement.
D'accord. Et dans cette mobilisation, est-ce qu'un enjeu, c'est pas aussi l'hétérogénéité des membres entre exploitants et ouvriers agricoles, sachant que la catégorie des ouvriers agricoles est traditionnellement peu syndiquée? Et est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots sur la mobilisation des ouvriers plus que celle des exploitants et des difficultés spécifiques?
Alors, sur l'hétérogénéité des membres de l'association, ça va même plus loin que cette distinction entre salariés et exploitants agricoles. Alors, cette distinction, elle est très importante, parce que comme Jean-Noël l'a dit, on est en France. Donc en France, même s'il y a de moins en moins d'agriculteurs, etc., etc., on reste quand même dans un pays qui est caractérisé par des formes d'organisation du travail où l'exploitant a un rôle important. Il y a beaucoup d'exploitants agricoles. Hein. C'est pas la Californie avec des formes d'organisation où on a des investisseurs externes et puis beaucoup de salariés. Donc aujourd'hui, donc il y a cette articulation entre salariés et exploitants. Donc au sein de l'association, il y a les deux, hein, qui sont présents. Ça pose pour l'instant pas trop de questions. Par contre, ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a des mouvements de salariés qui existaient préalablement à la constitution de l'association, qui n'ont pas, pour lequel il n'y a pas de lien qui a été fait par l'association. Hein. Par exemple, Frédéric Decosse, qui est un sociologue, a beaucoup travaillé sur les travailleurs précaires migrants dans le sud de la France. Donc là, dans le travail du maraîchage sous serre, qui est très, très utilisateur justement de manœuvres salariées. Les syndicats représentatifs avaient aidé, accompagné ces travailleurs migrants au cours des années 2000 à essayer de faire reconnaître leurs droits, à faire reconnaître aussi leur prise en charge au titre soit d'accidents du travail, soit de maladies professionnelles. Pour l'instant, la question de ces salariés n'est pas du tout une question qui a été problématisée par l'association Phyto-Victimes. Mais au-delà même de cette distinction entre exploitants et salariés, il faut savoir que l'association, elle a été, et c'est lié en partie à sa genèse, hein, qui est très liée à des associations environnementales, elle a été créée dans un but de porter la question des effets sanitaires des pesticides sur les professionnels, mais aussi sur les riverains, aussi sur les travailleurs de l'agroalimentaire. Enfin, l'idée, véritablement, c'est quand même de dénoncer l'effet sanitaire des pesticides. Et tout un enjeu, toute une difficulté aujourd'hui pour l'association, c'est d'arriver à continuer à avancer sans se respécialiser, se recentrer simplement sur la question des exploitants agricoles. Alors pour l'instant, ils y arrivent, c'est-à-dire que quand on a été au salon d'agriculture voir leur action, il y avait des exploitants agricoles, il y avait des salariés agricoles qui étaient présents, mais il y avait aussi des salariés de l'agroalimentaire, hein, de Triskalia, qui est une usine bretonne où il y a des gens qui ont été exposés à des pesticides dans le cadre de la conservation en fait, de produits agroalimentaires. Et puis, il y avait le représentant d'une association là de riverains, plutôt à la SAC ONGF, de gens qui s'opposent à des épandages aériens de pesticides dans le Limousin. Voilà. Donc, c'était un regroupement assez étrange qui tient, pour l'instant, au niveau associatif. On ne sait pas comment ça va évoluer. Et qui est porteur, évidemment, de tensions. Hein. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de faire beaucoup de recherches. Vous lisez tous les articles de presse qui paraissent sur Internet, qui relatent les actions de Phyto-Victimes. Vous lisez les commentaires en dessous de ces articles. La première chose qui va être dit, c'est « Ah, ces agriculteurs, ils nous ont empoisonnés pendant 30 ans. Ils ne vont pas en plus réclamer qu'on les aide maintenant qu'ils nous ont empoisonnés. » Enfin, il y a une vraie tension entre agriculteurs et non-agriculteurs par rapport à cet enjeu-là. D'ailleurs, ça me permet de, peut-être de, d'évoquer encore une fois sur la genèse de l'association quelque chose qui est assez drôle, c'est que, enfin drôle, intéressant, c'est que l'association Phytovictimes, en fait, qui est l'association la plus visible, etc., elle a eu un ancêtre, on va dire, une autre association de victimes qui a émergé dans les années 2000, qui avait été créée par un apiculteur. En fait, qui avait créé une association de victimes des pesticides, c'est comme ça que ça s'appelait son association. Et en fait, il espérait regrouper des riverains et des apiculteurs comme lui qui avaient été exposés aux pesticides, et il s'est retrouvé avec des coups de fil d'agriculteurs qui lui disaient comme quoi ils étaient malades à cause de l'exposition professionnelle. Et c'est un peu malgré lui, finalement, qu'il a créé le premier réseau qui, ensuite, a pu servir à Phytovictimes pour consolider son association. Donc on voit bien que là, il y a une tension. Alors, on ne sait pas très bien, nous, hein, on peut pas prévoir l'avenir, mais comment va évoluer le travail politique. Il y a des choix qui vont être faits au sein de Phytovictimes, de savoir est-ce que c'est plus... c'est pas forcément stratégique d'ailleurs, mais est-ce que c'est plus efficace de garder une association qui est une association de malades professionnels, ou est-ce qu'on arrive à tenir un discours de dénonciation des pesticides qui met ensemble les riverains, les associations écologiques, les salariés de l'agroalimentaire et les malades professionnels, exploitants et salariés, quoi.
En tout cas, le cœur du travail associatif tel qu'il se fait depuis un an, une grosse année maintenant, ça a vraiment été de transformer des gens, les exploitants agricoles, de les faire passer du statut de coupable du problème au statut de victime du problème. Ça, c'est vraiment un enjeu central. Et de ce point de vue-là, on ne peut pas préjuger de la réussite du mouvement, mais enfin, néanmoins, il y a quand même pas mal de chemin qui a été parcouru. C'est-à-dire que l'association Phytovictimes a vraiment développé une certaine maestria dans l'art de redistribuer un peu les cartes des responsabilités autour des problèmes liés aux pesticides. Et a su faire montre d'une véritable capacité à objectiver, à rendre visibles comme des victimes des gens qui, initialement, apparaissaient pas du tout comme des victimes des pesticides.
Mais c'est super intéressant, mais dans ce cas-là, qui prend le rôle du coupable ? Contre qui s'oppose l'association ?
Très bonne question. Donc il y a effectivement, une fois qu'on essaye de se dire, les utilisateurs de pesticides sont peut-être pas les responsables, ou en tout cas les seuls responsables des problèmes qu'induisent les pesticides sur la santé humaine, sur l'environnement, vers qui peut-on pointer le doigt ? Donc il y a plusieurs options possibles. Hein. Celle qui a été initialement et principalement envisagée par l'association, c'est de dire le responsable principal, c'est celui qui fabrique le produit. C'est-à-dire la firme phytosanitaire. Le procès de Paul François, donc Paul François, qui est le fondateur de l'association, a intenté un procès contre Monsanto, qui était le fabricant du produit, le Lasso, dont Paul François estimait qu'il était à l'origine de son intoxication. Et Paul François a gagné ce procès en première instance en février dernier. Donc ça a été la première voie judiciaire et politique explorée par l'association, qui consiste à pointer du doigt la responsabilité des fabricants qui fabriquent des produits dangereux, mais qui, c'était le cœur du procès de Paul François, mais qui n'informent pas correctement des dangers de ces produits et des moyens de s'en prémunir pour les agriculteurs. Cela dit, je pense que la question des responsabilités en jeu derrière le problème des pesticides est quand même autrement plus complexe que les défauts d'information autour des produits fabriqués par les producteurs de pesticides. Ces produits, ils passent par l'homologation, comme on l'a dit au début de l'émission. Donc là aussi, il y a vraisemblablement, si intoxication massive d'agriculteurs il y a, ce qui reste à prouver, hein, il y a vraisemblablement quelque chose de très lacunaire au niveau de l'homologation. Les mailles du filet n'ont sans doute pas été assez resserrées pour éviter que ne passent des produits qui ont endommagé la santé des agriculteurs. Mais cette forme d'accusation-là, qui serait plutôt une accusation contre l'État que contre les firmes, elle a pour l'instant été assez peu explorée par Phytovictimes, tout comme celle consistant à pointer du doigt les instances routinières du monde agricole, c'est-à-dire les gens qui vendent les pesticides, les gens qui prodiguent des conseils autour des manières de l'utiliser, donc les coopératives, les chambres d'agriculture, etc., etc., qui, d'une manière ou d'une autre, ont vraisemblablement une part de responsabilité dans la manière dont les pesticides sont utilisés et dans les dégâts éventuels qu'ils peuvent commettre. Mais pour l'instant, l'association apparaît surtout comme une association qui s'est battue, qui se bat contre les firmes qui ont quand même le rôle du méchant dans cette affaire-là.
Ok. Et si on continue à tirer ce fil du procès, comment est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de ce procès contre Monsanto et faire un lien, s'il y a un lien ou pas, sur la par exemple la façon dont le procès des faucheurs d'OGM est devenu l'occasion d'un procès contre les OGM, et est-ce que ce procès-là devient aussi un procès contre les pesticides, une épreuve publique ?
A priori, on aurait pu le voir comme ça. Après, la démarche du procès, dans le cas de Paul François, ça consiste quand même à faire la preuve d'un lien entre une exposition et une maladie. Et c'est là où le cas de Paul François est assez paradoxal. Il est à la fois très emblématique, il a servi beaucoup à rendre visible l'association et son combat, et de ce point de vue-là, ce procès a été une réussite à la fois judiciaire et politique et médiatique. En même temps, si Paul François a gagné son procès, c'est parce que dans son cas, la relation de causalité entre l'exposition et la maladie, pour plusieurs raisons, était relativement facile à établir. Elle l'était d'abord parce que lui, il n'a pas été exposé chroniquement à des doses répétées de pesticides. Non, il l'a été d'ailleurs, comme tous les agriculteurs. Mais la cause de sa maladie, c'est très vraisemblablement une exposition massive et ponctuelle à des pesticides qui étaient contenus dans une cuve et que, par un jour de grande chaleur, il a massivement inhalé. Qui plus est, un des produits qui était présent dans le pesticide avec lequel il a été intoxiqué est resté un certain temps dans son organisme, ce qui fait qu'on a pu en retrouver plusieurs mois après l'intoxication des traces dans ses cheveux. Ça, c'est des conditions qui sont très très rarement réunies pour les autres cas de victimes des pesticides qui auraient beaucoup plus de difficultés à démontrer un lien de causalité devant un tribunal. Qu'il saisirait pour attaquer une firme qui leur aurait vendu un produit. Généralement, ils ne peuvent pas s'attaquer à une firme qui leur a vendu un produit parce que ces gens-là ont été exposés de manière chronique et répétée à des doses de pesticides plus ou moins hautes, plus ou moins faibles, pesticides qui leur ont été fournis, qui ont été fabriqués par une pluralité d'industriels. Donc ça rend en réalité très difficile d'envisager au sein de l'association la réplication du procès qui a été entrepris et gagné par Paul François contre Monsanto. Donc c'est plutôt d'autres voies d'indemnisation qui sont actuellement... et d'autres voies de reconnaissance qui sont actuellement étudiées et privilégiées par l'association, en particulier à travers la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, qui est une commission qui a été mise en place dans les années 80 pour indemniser les victimes d'attentats, c'est-à-dire les victimes d'infractions pénales dont les responsables ne sont pas retrouvés. Et c'est une voie qui avait été également explorée pour indemniser les victimes de l'amiante, explorée par le même cabinet d'avocats, le cabinet Tessonnière, qui est le cabinet d'avocats qui représente la plupart des phytovictimes et qui était un des principaux cabinets d'avocats des victimes de l'amiante. Donc il s'agit plutôt là d'attaquer la responsabilité des industriels en général et non pas la responsabilité civile d'un industriel en particulier. C'est quand même légalement très très différent, philosophiquement, symboliquement très différent. Et donc l'idée, c'est d'obtenir, au titre d'une responsabilité générale des fabricants de produits phytosanitaires, une reconnaissance facilitée pour les travailleurs qui seraient victimes des produits de phytosanitaires, avec l'espoir de créer un fonds spécifique, comme ça a été le cas pour les victimes de l'amiante. Il y a un fonds spécifique d'indemnisation des victimes de l'amiante qui pourrait éventuellement, un équivalent pourrait éventuellement voir le jour pour indemniser les victimes professionnelles des expositions aux pesticides.
Alors sur la question de la responsabilité, j'aimerais aussi poursuivre sur ce qu'a dit Jean-Noël par rapport à... Parce que la responsabilité, il y a deux enjeux. Il y a la question de comment on porte une responsabilité dans l'arène judiciaire. Hein, donc là, c'est toute la question des stratégies judiciaires. Est-ce qu'on fait un procès au civil en responsabilité? Est-ce qu'on mobilise la commission des infractions? Mais il y a aussi la question de la responsabilité, c'est-à-dire comment les agriculteurs, eux, vivent avec la question de la responsabilité, hein. Et aujourd'hui, le discours de l'association phytovictime est de dire on a été les victimes d'un système. Ça renvoie bien à la complexité qu'a évoqué Jean-Noël, hein, c'est-à-dire que les agriculteurs racontent comme quoi eux, ils ont appliqué des pesticides parce qu'ils étaient conseillés par des techniciens agricoles qui leur disaient que c'était des pesticides inoffensifs. Alors l'exemple qu'on donne le plus souvent par rapport à ça, c'est le Roundup, hein, avec des publicités qui mettait en avant l'innocuité du pesticide, à la fois sur l'environnement, sur les êtres vivants, qu'on pouvait même boire. Enfin, il y a tout un ensemble de choses qui ont été décrites. Hein. Il y a ça. Et puis, il y a aujourd'hui la question... Donc, pour les agriculteurs, aujourd'hui, c'est un enjeu de pour eux-mêmes de se convaincre du fait qu'ils ne sont pas complètement responsables de ce qui s'est passé. Alors, on peut voir que... En général, quand on discute avec eux, c'est pas si évident, quoi. C'est-à-dire que c'est plutôt une co-responsabilité ou c'est une participation et que c'est quelque chose qui est aussi très étroitement lié au type de procédure dans lesquelles ils sont prêts à s'engager. Parce que pour poursuivre une procédure, il faut quand même avoir l'idée que la cause qu'on défend est une cause juste. Et ça, l'association permet ça aussi. C'est-à-dire que la mise en relation des différentes personnes qui ont été victimes, leur permet de donner sens à ce qui leur est arrivé et de construire aussi une identité de responsable, et de responsable qui s'assume et qui ne se prend pas toute la responsabilité dans la figure. Hein. Sachant qu'en plus, par rapport à, pour revenir à ce qu'on a dit au début sur le système de régulation des pesticides en France, pendant très longtemps, là, la question des risques, que ce soit à la MSA, que ce soit au ministère de l'Agriculture, elle a été pensée au prisme des risques aigus et pas des risques chroniques. Et que par rapport à ça, les principales préconisations qui ont été faites pendant des années, alors c'est en train de changer, c'est des préconisations qui portaient plutôt sur les comportements individuels. Et que là, encore une fois, je veux dire, la maladie, l'accident est lié à un mauvais comportement. Hein. C'est ça qui a été porté par les institutions agricoles pendant un certain temps. D'où la difficulté aussi, il faut déconstruire cette façon de penser la responsabilité pour pouvoir s'affirmer soi-même dans l'espace politique comme quelqu'un qui n'est pas simplement quelqu'un qui a mal appliqué le produit, quoi. Voilà. Deuxième chose que je voulais ajouter, si j'ai un petit peu de temps sur la responsabilité, c'est que la complexité de cette question de la responsabilité, c'est la même qui est à l'origine de la complexité qu'il y a aujourd'hui à changer les pratiques agricoles. C'est-à-dire que si c'est un système qui a permis qu'on utilise des pesticides, qui a favorisé leur utilisation et in fine, peut-être massivement, mais ça, c'est, on n'a pas de recul suffisamment, des effets négatifs sur la santé. C'est aussi très compliqué aujourd'hui de changer des pratiques agricoles. Quand on interroge des gens qui essayent de changer les pratiques agricoles vers moins d'utilisation de pesticides, c'est très compliqué de le faire parce que ce n'est pas au niveau individuel que ça se joue. C'est au niveau de toute l'organisation de l'appareil de développement agricole, du conseil technique, etc. etc. quoi. Donc là, il y a des travaux hein, en sociologie de l'innovation qui étudient ça, mais on parle d'effet de lock-in. Mais cette question de la responsabilité, elle est aussi très étroitement lié à la question du changement des pratiques, quoi. Voilà.
D'accord. Donc, finalement, le droit est une ressource importante pour phytovictimes. Enfin, la mise en procès, la question de la responsabilité, etc. Mais je voulais savoir, est-ce que... Enfin, comment les médias sont utilisés par l'association? Et voilà.
C'est une bonne les question. Les médias ont traditionnellement plutôt du mal à se saisir des questions de santé au travail comme des questions politiques majeures qui vont intéresser leurs lecteurs pour plusieurs raisons, mais d'abord parce que les journalistes ne s'intéressent pas énormément aux populations de travailleurs en général, et parce que aussi, du fait de l'existence d'une législation spécifique sur la réparation des maladies professionnelles, il apparaît en général, vu de loin, que les problèmes de santé liés au travail, que ce soit dans le régime général ou en régime agricole, sont plutôt pris en charge. Voilà. Il est très difficile de décrire cette situation comme une situation d'injustice. Et ça se redouble tout ce que vient de dire Giovanni dans le cas des agriculteurs qui ont a priori du mal à convaincre des journalistes que leur situation relève d'une forme d'injustice qui pourrait être dénoncée. Il y a encore quelques années, les journalistes qui s'intéressaient à la question des maladies professionnelles induites par les pesticides discontaient sur les doigts d'une main. Je pense d'ailleurs qu'en gros, deux doigts, il aurait suffi. C'était un journaliste dans une revue qui s'appelle Santé et Travail, qui est une revue traditionnellement, elle, engagée dans la dénonciation des risques professionnels. Et pour ce qui est de la presse généraliste, c'était une journaliste de l'Express qui a fait les premiers papiers en 2004-2005 autour de cas de victimes, dont certaines se retrouvent aujourd'hui au sein de l'association Phytovictimes. Alors aujourd'hui, un des effets de ce travail politique de l'association, qui fait passer les agriculteurs du statut de responsable du problème au statut de victime du problème, c'est de faciliter l'appréhension journalistique du problème comme une situation d'injustice qui peut être dénoncée, qui peut faire l'objet de papier. Donc il y a une couverture assez massive du procès de Paul François, qui est passé au journal télévisé, qui a été relaté dans à peu près tous les grands médias. Ça reste un traitement discontinu d'information. Hein. C'est pas, on est très très loin d'un traitement du type scandale de l'amiante où pendant des semaines on est abreuvé d'informations sur la question. Mais même s'il est sporadique, le traitement médiatique de la question des maladies professionnelles induites par les pesticides, il est aujourd'hui autrement plus dense qu'il ne l'était il y a encore 3 ou 4 ans. Ce qui n'est pas seulement le fait de l'association, ce qui est le fait de l'évolution d'un contexte plus général autour des pesticides, mais ce qui montre quand même qu'il y a une véritable efficacité de l'association, même si je ne suis pas sûr que l'association ait tellement développé de stratégies spécifiquement dédiées à établir des relations de presse complètement stabilisées. Hein.
Dans ce cas-là, elle bénéficie plutôt peut-être de ce que fait Génération Future, qui avait médiatisé
Pas mal du soutien de Génération Future sur la question de la médiatisation. Elle a bénéficié aussi du fait qu'elle a trouvé un certain nombre de personnes en son sein qui étaient capables et qui ont accepté de jouer le jeu de la médiatisation. Alors, la personne à laquelle on pense, c'est Paul François, qui est un agriculteur qui, quand on le regarde dans les médias, on est frappé par l'intelligence avec laquelle il existe, en fait, dans l'arène médiatique. Il est capable de comprendre le jeu médiatique. Et puis je pense que ça, la médiatisation aussi a, alors ça j'ai pas de données précises là-dessus, mais a aussi pas mal bénéficié du fait que pour les journalistes depuis quelques années la forme scandale, en fait, l'existence de la recherche d'un scandale, le scandale sanitaire à venir, les pesticides ont peut-être été en cela intéressants pour les journalistes, quoi,
à la suite des précédents.
Ok, peut-être une dernière question. Tu as mentionné très rapidement, parce qu'on va devoir s'arrêter, tu as mentionné tout à l'heure l'enquête épidémiologique Agri-Camp, et je voulais savoir si c'était justement l'une des réponses de l'État face à cette mobilisation. Enfin, est-ce que c'est une... Non, pas trop.
Non, l'enquête Agri-Camp, qui d'abord n'a pas donné ses résultats définitifs, donc on ne peut pas dire grand-chose là-dessus encore. Pour l'instant, elle rappelle juste quelque chose qui est bien connu, c'est que les agriculteurs meurent plutôt moins de cancer que la moyenne de la population, mais ça ne préjuge absolument pas d'excédent de tel ou tel type de cancer en lien éventuel avec des pesticides. L'enquête Agri-Camp, elle procède d'abord de la volonté, de l'ambition scientifique de deux chercheurs en épidémiologie, l'un de l'université de Caen, l'autre de l'université de Bordeaux, qui ont su mobiliser une série d'alliances, mais depuis 15 ans, d'abord avec la MSA, plus qu'avec l'État directement, donc la Mutualité Sociale Agricole, donc la Sécurité Sociale Agricole des Agriculteurs, pour fabriquer une enquête qui est extrêmement ambitieuse. C'est une enquête de cohorte, c'est-à-dire qu'en gros, on fabrique une cohorte de gens qu'on suit dans le temps, dans un temps long. Donc ça nécessite beaucoup de moyens, c'est pas du tout évident. Alors maintenant, l'enquête Agri-Camp, elle est beaucoup instrumentalisée comme étant une réponse des institutions, des autorités au problème. Sous-entendu, on va faire la lumière sur le problème, on s'en occupe, on le gère. Voilà. Donc encore une fois, on n'a pas les résultats, et puis surtout, il ne faut pas trop s'illusionner sur l'aspect institutionnel de la chose. C'est d'abord une démarche scientifique qui a été ensuite assez facile à réinscrire dans des dispositifs institutionnels, mais qui ont existé plutôt a posteriori, qui n'étaient pas là avant.
Ok, super. Merci beaucoup Jean-Noël et Giovanni. Vous retrouvez Zoom Écologie jeudi prochain à 20h30. C'était Lise et Sarah et on vous dit au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Zoom Écologie, tous les jeudis soirs de 20h30 à 21h30 sur Fréquence Paris Pluriel. To walk, time to run.
you in your area.